Bonsoir, merci d'être venu. Merci d'être venu en plus pour une rencontre qui, en tout cas, moi, me faisait languir. Parce que ça fait longtemps que je suis les travaux de Mylène Pardoen. Vraiment. Pas mal d'années. Je trouve qu'elle a un parcours à la fois très singulier et très important. Pour l'histoire, en plus, je suis 18e-iste. C'est pour ça que, voilà, vous allez voir. C'est pour ça que ça me concerne aussi personnellement, mais je crois que ça évidemment, au-delà de la période, etc., c'est vraiment des méthodes, et c'est aussi une appétence pour indécence, et une histoire d'indécence qui est finalement vraiment peut-être le moins étudié, le moins connu. Voilà. Et donc, je vous présente Mylène Pardoen, et je vous propose de travailler là ce soir. C'est sous forme vraiment de rencontre et d'échange, d'accord ? Qu'on va travailler. Je vais vous présenter d'abord. Vous me dites si je fais des erreurs. J'ai travaillé, mais ça peut m'arriver. Vous avez commencé une carrière de mécanicienne d'hélicoptère.
Militaire,
donc, dans l'armée. Ouais. Et puis. Vous avez fait une thèse en musicologie sur la musique militaire à l'époque de la Révolution française. Alors ça m'intéresse pas mal. L'histoire des sons, des chants. Alors depuis, de la Révolution française, c'est beaucoup développé. Mais au moment où vous l'avez faite, il n'y avait pas beaucoup de travaux. Surtout sur la musique militaire, j'allais dire. Voilà. Et c'était à Clermont-Ferrand, c'est ça ?
Clermont. Ouais.
Voilà. Et ensuite, d'après ce que j'ai lu de vos entretiens, vous avez commencé c'est aux Invalides que vous avez, au musée de l'armée, donc des armées et de la paix, là, que vous avez commencé à travailler, puisqu'ils sont peut-être même, j'ai l'impression qu'ils sont allés vous chercher. Mmh. Ouais, c'est eux qui sont allés vous chercher pour sonoriser les plans, c'est ça, de bataille.
Ouais, les plans de bataille.
Les plans de bataille. Donc ça rencontre.
C'est très bien, c'était musique militaire. Hein,
voilà, ben oui. Ça rencontre un moment dans les musées, dans les établissements culturels, où effectivement l'histoire du son, le fait de recueillir les témoignages même oraux, enfin dans l'histoire, il y a eu aussi toute cette période-là et une attention à l'histoire des sons, l'histoire sonore, mais à ce moment-là plutôt du design sonore. Mylène Pardoen est passée à autre chose. Elle propose autre chose aujourd'hui, mais. Mais ce qui était assez nouveau quand même, donc en termes de médiation aussi, ça rencontrait une attente des publics de plus d'immersion, d'expérience.
Surtout du général qui commandait.
Et du général. Ok.
L'établissement voilà. Des Invalides.
Et c'est à ce moment-là que, à partir de cette expérience-là, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que vous avez commencé à entreprendre un projet qui, je pense, n'est pas terminé. Je ne sais plus à combien de versions on en est ?
27.
27, c'est le projet Bretèze, ouais. Du nom de Louis Bretèze, ingénieur, 18e siècle, qui a réalisé le plan commandé par Turgot, voilà, au 18e siècle, à la fin du 18e siècle. Et à partir de ce plan-là, et d'autres sources, je vais vite vous faire parler, mais parce que ça, je trouve que dire ça renseigne un petit peu sur votre méthode, qui est quand même une méthode assez vertigineuse du point de vue du croisement des sources. Pour arriver à restituer des sons de manière si précise et sérieuse, il faut arriver à croiser un nombre de sources incroyable. Donc un plan, puisque évidemment l'espace, en termes de production des sons, n'est pas un décor, il est un acteur de la production des sons, et les manières dont il est utilisé. Louis-Sébastien Mercier, enfin, des sources donc plutôt écrites sur le Paris du XVIIIe siècle. Un peu comme vous expliquez dans un entretien, les archéologues qui sont, c'est vrai, habitués. Alors, vous n'êtes pas, vous, en master d'archéo, mais ceux qui sont en master de valorisation du patrimoine culturel, et notamment en archéo, ils sont habitués quand même à utiliser la 3D. Pour rendre compte et valoriser le travail de l'archéologie. Et c'est par ce biais-là que vous expliquez dans plusieurs entretiens que vous êtes finalement défini comme une archéologue du paysage sonore. Reprenons un concept qui est le soundscape, le paysage sonore, qui a été popularisé ou en tout cas proposé dans le champ scientifique en 1977 par Raymond Murray Schafer, et qui se différencie un petit peu, cette notion d'architecture du paysage sonore, des notions d'habillage, d'ambiance sonore, d'idées qu'on va reconstituer les sons. Voilà. Et donc, vous proposez une méthode un peu différente et vous l'avez appliquée à plein de projets différents, à partir du centre de Paris, j'ai l'impression. Moi, j'avais découvert votre travail sur le Grand Châtelet. Donc, ça donne du son, mais ça donne des images aussi, puisque c'est, vous avez compris, c'est indissociable de l'espace et des manières dont on peut essayer de le restituer. Un travail sur Notre-Dame aussi, au moment du chantier de Notre-Dame, on va en parler, enfin, peut-être, si vous le voulez bien. Voilà, donc, moi, ce que je voulais, voilà, je voulais un peu commencer par ça. Vous avez dit, j'ai créé ma propre discipline, finalement, l'archéologie du paysage sonore. Et j'aimerais bien quand même commencer par ça. En quoi ça se différencie des approches un peu plus classiques ou traditionnelles visant à comprendre comment fonctionnent les sons du XVIIIe siècle, ou par écrit ou même en essayant de les reconstituer de manière sonore. En quoi vous, votre démarche, elle est un peu différente, et qu'est-ce que vous proposez finalement, comme quand vous dites j'ai créé une discipline, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire déjà faut remonter un peu loin dans le temps pour certains d'entre vous. Moi j'ai soutenu ma thèse en 2007, ouais. Et en 2013 je sortais mon projet Brothèse. Au tout début, lorsque j'étais en musicologie, il y a encore du sang sur les murs parce qu'on m'a dit que j'étais un peu folle. Et puis surtout, on ne comprenait pas là où je voulais aller. Moi, ce que je voulais exprimer par mes travaux, c'était ce que j'avais dans la tête. Et j'ai la spécificité que d'entendre du son quand je lis ou quand je vois. Il y en a qui voient des couleurs quand ils entendent des sons. Moi, quand je lis ou quand je vois, c'est pas un effet de mon imagination, c'est j'entends ce qui se passe. Et je voulais, comme je pensais que tout le monde était pareil au début, j'ai pas vraiment remué. Puis c'est un jour, je dis, oh, t'entends ça. Et là, j'ai vu des grands yeux carrés. Alors je me suis dit, tu t'avances pas trop, et puis tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont bruyantes. Je vois un tableau, il y a des tableaux, je peux pas approcher tellement ça fait du bruit. Parce que le son jaillit des images. Et c'est vraiment pas un effet de mon imagination, c'est ce que je ressens. Donc à partir de là, je voulais réellement aller vers cette transmission. C'est-à-dire trouver les outils qui permettent à quelqu'un qui n'a pas les prédispositions que j'ai de pouvoir, non pas imaginer le passé, ce que je peux vous faire plein d'exemples sur lesquels, comme c'est véhiculé par le cinéma c'est bien, mais quand on a travaillé dans le théâtre ou dans le cinéma, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet fausse d'orchestre, donc un effet sonore ou un gag, c'est pareil pour les enseignants, je dévoile quelque chose, mais si on veut faire passer quelque chose à une classe, on est obligé de multiplier par 100 pour que le résultat soit à la mesure de ce que l'on attend. C'est l'effet fausse d'orchestre. Il faut augmenter l'effet pour qu'il passe et qu'il soit reçu. Or, moi, c'est pas ce que je voulais. Et je dis toujours, c'est bien dans le spectacle, que ce soit au théâtre ou n'importe quoi, quand vous entendez une claque, bon, c'est une bonne claque. Hein. J'aimerais pas être vraiment dessous pour la recevoir. Une claque dans la réalité, si on l'enregistre, mais ça fait flop. Hein. Je vous fais écouter une claque, vous allez me dire, c'est une claque, ça. Le micro qui est là, s'il prend la claque, bon, ça ne donne rien. Il y a plein de bruits et de sons du passé qui sont mal transmis quelque part. Ils sont transmis parce que ce qu'on veut faire jaillir, c'est de l'émotion. Moi, je ne veux pas faire jaillir de l'émotion, je veux essayer de témoigner du passé, ce qu'ils nous ont transmis, eux, avec leurs outils. Nous, c'est bien, hein, on a ça, on a plein de trucs. Eux, ils n'avaient rien. Comment transmettre l'impalpable, quand il y a juste des mots, et que les mots, ce sont leurs mots, leurs termes, et nous on arrive au 21e siècle, on n'a pas du tout la même définition, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière le mot. Et quand on travaille, c'est la même chose quand on travaille en trans ou pluridisciplinarité, un terme, il est différent pour la personne qui est en face de soi. Vous êtes historien, moi je suis musicologue, ça va, on est un peu proche. Moi je travaille beaucoup avec des sciences dures, je dis toujours, attends, on pose là, est-ce que ton bleu c'est mon bleu? Ce terme-là, tu l'as employé, tu mets quoi derrière? Tu veux dire quoi? C'est pareil quand on remonte dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, quand on commence à prendre les textes, 18e notamment, le premier biais que l'on a, c'est de le lire avec nos yeux du 21e siècle. Et puis le gros défaut, parce que moi aussi je l'ai eu au tout début, c'est de faire des comparaisons. Bon, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Même si, quelque part, un pot, ça reste un pot, il y a plein d'éléments autour, l'habillage, d'écrire ce pot, d'écrire ces sons qui sont différents. Et donc il a fallu faire un gros travail de compréhension du passé pour que le passé sonore que j'apporte aux oreilles soit le plus proche possible d'une possible réalité. C'est pas 100% de la réalité, ça ne le sera jamais. Pourquoi ? Ben parce que tout témoignage qui nous parvient, un texte ou un tableau ou un document, il jaillit sous le coup de l'émotion. C'est un auteur qui écrit, ah, c'est parce qu'il a envie et c'est son émotion qui fait jaillir le papier ou le tableau. Et seul document qui soit vraiment le plus strict qui soit, c'est tous ceux qu'il nous faut payer des impôts. Parce que ceux-là, il vaut mieux qu'ils soient bien justes, donc voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, c'était dans ma tête et mon travail, c'était vraiment... Je voulais transmettre ce qu'il y avait dans ma tête. De ce fait, je fais un travail d'archéologue. Et alors, comme eux, je suis avec ma petite balayette, j'enlève la poussière pour essayer de comprendre ce qu'il y a autour de l'élément que je veux étudier.
Vous n'êtes pas dans la tradition du bruitage, parce qu'il y a aussi cette tradition-là de...
Je pourrais. Hein.
Vous avez parlé du cinéma, je vois bien, même les chefs d'écho, ils mettent tout ce qu'ils ont pour faire plus que la réalité, et c'est pareil pour le son. On n'est pas dans la tradition du bruitage. Et puis, ce qui m'intéresse aussi dans votre démarche, et ce que je trouve super, c'est que une fois que vous essayez de trouver avec votre balayette, comme vous dites, toutes les traces sonores, en fait, que vous pouvez essayer de restituer, plutôt que de reconstituer, d'ailleurs, vous pouvez travailler, mais si vous n'en avez pas, vous ne cherchez pas à les imaginer. Non, mais c'est important.
Oui,
c'est-à-dire que vous assumez qu'il y ait des vides.
Oui, il y a des trous. Enfin, bon, dans la foison de son, qu'il y ait des trous, c'est pas le plus gênant. Quand on restitue une histoire sonore, c'est pas important. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait trop de sons. Et si on arrive sur des hypothèses, on a parlé de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, il y a beaucoup d'hypothèses. Dès le départ, je dis, voilà, ça c'est une hypothèse de travail. Pourquoi ? Parce qu'une hypothèse, elle peut évoluer. On trouve des nouvelles sources, on a des nouvelles informations, paf, on peut faire évoluer le modèle qui résulte de notre réflexion.
Ok.
On y va ?
On y va.
Parce que là, on a déjà défloré pas mal.
Non, mais c'est bien.
Donc, aujourd'hui, moi, je me dis archéologue du... patrimoine sonore, donc comment je suis passé du paysage sonore au patrimoine sonore, c'est tout simple. C'est vraiment une grosse réflexion nécessaire. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on va sur le terrain et on essaye de récupérer des vrais sons du passé qui sont encore dans notre présent. Mais oui, il y en a encore, je vous rassure, heureusement. Et on est riche de tout cela en France, il faut en profiter. Alors, on va aller voir du côté fondamentaux, comme ça ce que l'on a échangé sera un petit peu nourri, mais on va passer rapidement puisque le but c'est quand même de... Ah, mais ça marche pas sur le truc. Alors, est-ce que je peux l'avoir là? Oui, super. Voilà. Donc, on a parlé de Raymond de Morey-Schaeffer avec le paysage sonore, donc ça fait partie des fondamentaux. Un autre ouvrage qui m'a beaucoup inspiré, c'est « Des bruits et des sons dans notre histoire » de Guton. Avec lui, je me suis dit « Ouais, c'est bon, là, je tiens mon petit sujet, ce que j'ai dans la tête, c'est du vrai, et c'est pas de l'imaginaire. » C'est pas... Je ne doutais pas, mais des fois, quand on est confronté à beaucoup de personnes autour de nous qui ne sont pas comme nous, on peut avoir des doutes. Bah, Corbin, je pense que les études de Corbin, vous les connaissez. Alors, pour moi, je préfère Guton à Corbin, parce que Guton, il va débusquer les indices sonores. Corbin, c'est plus une réflexion sur la sensorialité. Le sensible, le silence. Donc, c'est une réflexion sur... Guton, lui, il dit tout de suite, oh, moi j'ai trouvé ça, c'est vraiment, voilà, ça va nous restituer le paysage. Et puis, ouais, comme j'ai une formation de musicologie, parce que ce qu'on n'a quand même pas dit, c'est que moi j'ai pris la totalité de mes études à 30 ans, je n'ai pas le baccalauréat, mais je suis titulaire d'une thèse. Et j'ai tout pris à 30 ans, c'est-à-dire que quand je me suis présentée à la porte de l'université, on m'a dit, je voulais faire de l'histoire. On m'a dit, non, histoire, c'est pas pour les gens qui reprennent... des études, non. On me proposait quoi? Musicologie. Et je pense que ça va rester pendant longtemps parce que je me suis dit musicologie. Il y a musique dans musicologie. On m'a dit oui, mais je fais pas de musique. Bon, c'est pas grave, vous allez vous débrouiller. Donc voilà, musicologie, je suis allée sur les traités des objets musicaux qui me servent énormément puisque je vais traiter le bruit comme un objet presque musical, un objet sonore. Donc on a parlé de sound design et de d'archéologie. Alors voici du sound design, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, ceci c'est mon premier travail. Là, ce que vous entendez, c'est la totalité de la boucle qui tournait dans le musée archéologique de la crypte Notre-Dame. Donc, vous voyez le schéma juste au-dessus, c'est une petite pièce qui était dans le fond. Les gens passaient la tête par la petite pièce, ne comprenaient rien à ce qui était exposé, parce que c'est vrai que c'était une petite murette de rien du tout, incompréhensible. Et il y avait la mouette qui couinait, vous avez vu la durée de la boucle, donc elle couinait tout le temps. Ok, donc c'était pas tout à fait bien. Donc je suis appelée par la responsable de ce musée, puis il me dit il y a un petit problème. Elle dit oui, il y a certainement un petit problème. Donc c'est quoi le petit problème? C'est que c'est un ressac, donc c'est pas la Seine, c'est l'eau qui coule pas spécialement. Et surtout il y a une mouette. Et la mouette à Paris, ou en France, tout du moins, elle arrive pas avant le XIIIe siècle. Alors là, on prend le fusil, on dégomme la mouette. Et on essaye de réfléchir à ce qu'on peut proposer. Donc première étape, moi je ne suis que archéologue du paysage sonore, mais en plus à l'époque j'étais rien du tout, j'étais musicologue, donc j'ai toqué à la porte d'un spécialiste archéologue, lui, des ports fluviaux. Ça existe, il était au Saint-François-les-Bouis-Bouis hors de France, je prends mon téléphone, pendant une demi-heure il m'a dit voilà, il y a cette piste-là. Vous vous débrouillez, vous allez y arriver. Merci. Et donc, comment est architecturé, comment est organisé un port fluvial, j'ai trouvé. Et j'ai fourni 3 fois 1 minute 30, qui représente les 3 grosses activités d'un port fluvial. Et il faut que ça boucle. D'accord? Donc, ça donne ça. Alors, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc là, vous avez un petit extrait de ce que j'ai proposé. Donc là c'est l'arrivée normalement. Voilà, c'est ça. Progressivement, la vie prend sur le port, elle se densifie jusqu'à passer les différentes étapes. Là, on est plutôt sur le déchargement. Après, il va y avoir tout le marché et puis à la fin des échanges pour sa boucle. Donc, quand on travaille pour un musée, il faut toujours sa boucle. Là, par exemple, j'ai une fresque qui tourne au musée des arts décoratifs, aussi sur le XVIIIe siècle. Et c'est le même schéma, on fait une boucle. Ils nous commandent en général 1 minute et demie. On dit ben, 1 minute et demie, c'est trop court, parce que sinon ça sature rapidement. Et c'est pas vous, visiteurs, qui serez saturés, c'est le personnel qui reste sur site. Donc on propose plutôt des boucles de 3 minutes, 3 ou 4 minutes, ça dépend. Ouais. Donc le fleuve, les passereaux et les abords du port. Alors, quand on fait un paysage sonore, parce que oui, j'ai travaillé sur Brothèse, et en travaillant sur Brothèse, le but c'était quand même d'essayer de formaliser, de faire un modèle, puisque comme j'avais réfléchi en me disant, les musées n'ont pas beaucoup de son. Donc il a fallu commencer à expliquer, essayer de comprendre comment était conçu un paysage sonore. Nous, on l'a... tout est groupé dans nos oreilles, donc quand on travaille à refaire des sons, c'est pas du tout la même chose. Donc un paysage sonore, c'est la géophonie. Donc là, par exemple, c'est un paysage du côté de Grenoble. Il y a une petite rivière, donc on entend à la fois la rivière et le vent. Donc il y a des éléments qui sont attenants à ce lieu-là, géophonie. Il y a toujours du vent quand il y a une rivière. Ensuite, on a tout ce qui est biophonie. Donc c'est toute la faune et les insectes, on ne les oublie pas. Je pense que le 18e qui était à côté de moi saura que c'est très important, les insectes. Et puis l'anthropophonie, tous les bruits et les sons qui émanent des activités humaines. Ça y est, vous avez un début de diplôme d'archéologue du paysage sonore. Là. Alors, c'est complexe un paysage sonore, pourquoi ? Parce que c'est du son. Et le son, c'est de l'espace, du temps, de l'espace-temps. Donc quelque chose complètement impalpable. Et qu'il faut réussir à analyser, comprendre, désarticuler pour réarticuler. Moi, je passe mon temps à dépiauter et à reconstruire. Avec plein de phénomènes, vous avez entendu, il y a des phénomènes naturels, il y a des phénomènes acoustiques, on va peut-être y revenir. Plein de bruits humains, des sémiologies. J'ai été quelque part recruté par le musée des Invalides pour ma connaissance des sémiologies. Donc aujourd'hui, il n'y en a presque plus, mais il y en avait plus on monte dans le temps, plus il y en a. Et elles s'empilent, parfois elles se confrontent, il y a des bagarres épiques. Avec les cloches notamment, et les cloches religieuses et les cloches civiles, c'est à qui cloche le plus tôt, jusqu'à avoir un quart d'heure d'avance. Donc voilà, il y a des bagarres sonores dans le passé. Je veux dire, il y a des bagarres sonores qui sont un peu différentes, ça fait plutôt le bruit des canons. Donc l'archéologie du paysage sonore, on s'appuie sur tout. Tout est bon, les écrits, les visuels, et on va reproposer les restitutions. Pour ce faire, moi je ne prends pas de notes. J'hétérographie, c'est-à-dire je joue mon logiciel pour faire de la musique, je vous montrerai à la fin, et j'écris tout de suite mon histoire. Je suis en train de former une petite jeune, là, elle me dit, mais c'est pas possible, comment tu fais ? Ben, je sais pas, c'est dans la tête et ça va jaillir, mais un peu comme un poète qui écrit un poème. Moi, je me suis toujours bluffé, j'ai travaillé pour un calligraphe, il a tout dans la tête, il écrit, moi je pourrais pas, quoi. J'en aurais pour moins de 200 ou 300 ans, parce qu'en plus, je ne suis pas copain avec l'écriture. Moi, je suis copain avec l'écriture sonore. Donc, voilà, c'est pareil. L'hétérographie, c'est permettre à un support traditionnel de se transcender à travers d'autres formes médiatiques. D'accord ? Par exemple, moi, j'ai des collègues qui travaillent sur l'olfactif, ils font des parcours olfactifs. Ils vont pas commencer à mettre des formules. Hein. Ils créent leur parcours, il y en a qui créent leur parcours ex nihilo, pof. Voilà, je mets un petit peu de ça, et puis ça y va. Donc c'est ça, hétérographier. Alors, on va essayer d'aller là. Alors, un peu de méthodologie rapidement, parce que plus on va avancer, plus ça va aller dans la profondeur. Donc la première chose, c'est définir des périmètres d'études. Parce que contrairement à... une idée qui pourrait être reçue, ça, depuis le temps que je passe le message, ça va un peu mieux maintenant. Et tout le monde me disait, s'il y a une grande surface, c'est bon, on va avoir de quoi se nourrir. Non, parce qu'il y a tellement à lire, à dépiauter, qu'il y a foison. Il faut savoir lire les textes, mais il y a foison d'informations sur l'environnement sonore du passé. Donc, zone géographique, pas trop grande. Moi, dans ma folie, juste avant, quand j'ai découvert Bretèze, je me suis dit, hop, je vais faire tout Paris. Au résultat, on a réduit la zone autour du Grand Châtelet. Hein. Ça fait déjà pas mal. Pour preuve, j'en suis à la 27e version, donc voilà, il y a de quoi faire. Temporel, parce que même si l'histoire, c'est du temps long, c'est-à-dire qu'il y a des sons du 3e siècle après Jésus-Christ, par exemple pour la crypte Notre-Dame, qu'on va retrouver jusque dans les années 1850. Et les mêmes sons, les mêmes outils. Ça ne fait pas si longtemps que ça que le temps s'accélère. Aujourd'hui, la durée d'un son, c'est... Oui, c'est programmé, il y a une obsolescence, 3 ans. Tous les 3 ans, votre paysage sonore évolue. Vous ne le sentez pas, mais ça évolue. Donc voilà. Donc temporel, on dit de telle période à telle période. Ou alors, on dit, voilà, moi je vais étudier la période de rupture. Ça peut être aussi des angles d'attaque. Et puis la dernière, bah, comme je travaillais pour les musées, il me fallait, bien sûr, un périmètre de diffusion. D'ailleurs, bah, 3A, bah, j'ai fait 6 minutes pour Bretèze, c'est mon plus gros travail. Bah, comme c'est mon laboratoire, c'est pratique. Et puis, bah, vous allez voir, on a toujours le même déroulé. C'est un, on va aller chercher des documents, collecte d'informations. 2, collecte d'informations dans le présent. Et 3, bah, une restitution, sous quelque forme qu'elle soit. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir continuer. Enfin. Donc c'est une recherche en 3 temps. Pourquoi 3 temps? Bah, parce que, 1, il faut aller chercher dans le passé. Ça, c'est le travail de l'historien ou de l'archéologue. Le vrai, hein, parce que moi je suis un peu bâtarde, on va dire. Donc c'est trouver des sources. Et des sources, il y en a. Tout ça, ouais. Alors. Il est reparti en arrière. Un petit coquin. Donc, on récupère toutes les informations et on va essayer d'en dresser une carte. Vous allez voir, c'est simple. Enfin, c'est ça, sur le papier. Donc vous voyez là, il y a plein d'informations qu'on peut avoir. On va aller dans le détail. Donc ça, c'est la collecte de documents hétérogènes. Pourquoi? Parce qu'on a le plan, pas trop grand. Hop. Oh, super. Là, on est sur la bonne zone, on va pouvoir continuer. Et comme je vous l'ai projeté, vous avez tout type de documents. Autant de la littérature que des PV de police, des testaments et des registres. Tout est bon. Tout, absolument tout. Si vous coupez un petit morceau, vous risquez de passer à côté d'informations qui peuvent être essentielles. Donc on prend tout. Après, c'est à nous de faire le tri. Donc il va falloir recouper les informations. Les documents de seconde main. Oui, parce que je n'ai qu'une tête et 24 heures, comme tout le monde. Et quand on traite beaucoup d'informations, ben, des fois, on va toquer à la porte des historiens, par exemple, qui ont déjà traité de la documentation, qui l'ont pris avec leurs yeux et avec leur segment sur lequel ils travaillent. Et moi, j'ai trouvé de quoi me nourrir. Par exemple, ce document-là, il était pour connaître les loyers. Mais moi, j'ai trouvé plein d'informations concernant la sensorialité du pont de change. Du côté de la littérature, c'est pareil. Là, par exemple, c'est l'analyse de Louis-Sébastien Mercier, un de ses textes, qui nous offre un regard magnifique et en plus un rythme des villes. Et c'est là où on s'aperçoit qu'ils n'ont pas les mêmes rythmes que nous. Hein. Allez voir l'exposition au Musée des Arts Décoratifs, vous allez vraiment découvrir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes rythmes que nous.
Ils marchaient 1 km/h en moins, en moyenne,
tout
que
à fait.
Nous.
Bah, oui, oui. Mais même au niveau du temps, en fait, il y a 2 grandes périodes. Il y a une période d'été et une période d'hiver. Puisque, juste pour rappeler, 18e siècle, il n'y a pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, pas d'internet, pas de voiture. Et là, j'ai tous mes petits loupeaux qui me disent « Oh, et ils vivent !» Oui, ils y arrivent à vivre. Mais nous aussi, il faut qu'on se remette dans ce contexte-là. C'est-à-dire, à partir du moment où il fait noir. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire à la chandelle, ou même avec la lampe à huile. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, il y a quand même une réduction des activités qui se fait. Donc, les rythmes de vie dans les villes, ils sont différents. Et puis, bien sûr, vous avez tous les tableaux. Donc, ce tableau-là, c'est bien, il est tronqué, mais il fait beaucoup de bruit pour moi. Parce que il y a plein d'activités et on a présence d'acoustique. Par contre, tous les documents, tous sans exception, sont à prendre avec du recul. Aujourd'hui, on veut filmer ou photographier une ville. On prend notre smartphone, tac, on fait une photo. À cette époque-là, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de photographie. Je rappelle, la photographie fin du 19e. Hein. Donc, oui, Nicéphore Niépce, du côté de Chalon-sur-Saône, qui a inventé la photographie. Et avant, on peint. Mais on peint tout ce qui se déroule sur cette place, par exemple. Et là, il y a des activités qui sont concomitantes, mais dans la réalité, elles ne le sont pas. Donc, en bon historien que vous allez vous précipiter sur les agendas, les annuaires et les autres almanachs. Les feuilletés pour se dire « Oh, le lundi, on vend du pain. Oh, le mercredi, c'est plutôt les volailles. » Alors que là, on a tout. Et c'est important. C'est important quand on veut restituer une scène sonore. Donc, on va essayer de comprendre aussi ce que nous explique le peintre. Et on va faire des belles découvertes. Sur ce tableau, par exemple, en 5, vous avez un aquamoteur. Pourquoi il y a un aquamoteur attaché sous les arches du pont à Paris ? Oui, c'est bien ça. Quoi. Vous voyez le petit bateau, là ?
Ah oui.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le petit bateau ? Eh bien, il n'y a pas de chemin de halage à Paris, mais il faut bien remonter la Seine.
Ah
oui. Ah ouais. Et donc, l'aquamoteur sert à ça. Et ça fait du bruit. Eh oui. Tout participe au bruit. Les objets du quotidien qui nous expliquent... la vie. Vous avez les dessus des clavecins, qui sont intéressants aussi. J'ai mis un éventail, c'est quand même un peu plus petit qu'un dessus de clavecin. Et donc l'étape suivante, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il va falloir recouper les informations. Hop, deux plans, à peu près à la même période. Il y en a un, je ne sais pas si vous voyez, un Bretez, il nous présente un Paris super clean. Tout propre, il n'y a pas de travaux, il y a des quais. Bizarre, étrange, on prend un autre plan qui sert plutôt pour payer les impôts. Oh, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un petit souci, hein ? Pas de quais, plutôt de la berge. Et quand on regarde de près, non seulement c'est de la berge, mais il y a des pilotis, parce que c'est le quartier des Pelletiers, et qu'ils ont des maisons sur pilotis pour pouvoir faire sécher les pots. Donc si on va s'occuper plutôt du son. Je pense que mes collègues de l'olfactif n'iront pas restituer les odeurs de ce quartier-là. Donc on va chercher les incohérences, essayer de comprendre ce que ça raconte. Le document, il n'est pas faux au-dessus. C'est un plan qui est fait pour la promotion de Paris. Je suis sûr que vous avez tous récupéré des plans de Paris 2024. Et quand vous l'avez comparé au vrai plan, vous avez dit, oh, il y a quand même un problème. Voilà, un plan, ça... une destination, ça n'a pas la volonté de restituer fidèlement ce que l'on a sous les yeux. Et puis, on a tout ce qui est acoustique, j'en avais vaguement parlé. L'acoustique d'une rue, elle est importante. Pourquoi ? Parce que les sons vont se balader à l'intérieur. Donc, l'acoustique, elle a pour son importance la largeur de la rue. Plus c'est large, plus les sons vont se perdre à l'intérieur. Plus c'est serré, plus les sons vont rester. La hauteur, ça aussi, c'est important. Ensuite, vous avez tous les matériaux. Par exemple, le pavé résonne beaucoup plus que la terre. Le son, il rebondit dessus. Hein. Tous les éléments architecturaux qui vont, ou pas, rabattre le son. Et puis, la forme. En V, le son s'en va facilement. En U, il commence à partir. Puis, en encorbellement, le son, systématiquement, il retombe au sol. Alors, je suis un peu un chercheur, quoi. Je cherche un pouce sur une tête chauve. Voilà, Paris, au XVIIIe siècle, il est un peu plus accidenté que le Paris d'aujourd'hui. Par exemple, le quartier sur lequel je travaille donne ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va de la mairie de Paris au Louvre, on ne transpire pas tant que ça. Mais ça a une incidence sur les sons. Les ponts sont beaucoup plus pentus. Ça a une incidence sur les sons. Ouais. Il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Les rues sont sales, elles sont pavées, on n'a pas forcément des bonnes chaussures, donc oui, on marche un kilomètre plus lentement qu'aujourd'hui. On a des vêtements plus lourds. Donc ça a aussi une incidence sur tous les bruits et les sons. Après, bon, c'est simple. Hop, on fait un petit millefeuille. Regardez, hop. Et puis, ben, on va tout restituer. La géophonie. Donc, on essaye de comprendre comment ça s'articule. Ensuite, ben, la diophonie. Et puis, bien sûr, les activités humaines. Bien, ben, vous avez passé la deuxième étape pour passer... à l'étape suivante de l'archéologue du paysage sonore. Donc, on vous a dit que je faisais ni du bruitage, ni du sound design. Alors, comment faire du son quand on fait ni l'un ni l'autre? Ben, faut aller à la pêche au son. Hein. Donc, on va aller chercher dans le présent et mettre en regard les bruits et les sons du passé qui sont encore dans notre présent par rapport à tout le panier d'indices qu'on a récupéré. Et pour ça, on va utiliser plein d'outils qui, eux, sont contemporains. Un, la captation. Donc, voilà. Je pars souvent en vadrouille. On a réussi à me calmer un tout petit peu, là. Comme ça, j'ai fait un petit détour par la Sorbonne. Donc, tout type de captation, avec plein de types de micros, pour des gestes, des machines, des déplacements. On peut aller jusqu'à... Alors, les points, c'est les nombres de micros qu'on positionne autour des outils ou des machines pour être le plus proche possible de ce qu'entend, pour la machine, de ce qu'entend l'artisan ou le plus proche possible d'un geste. Je vous montrerai des micros et des positionnements. Donc, on a un enregistreur numérique qui est en haut, la diapo est coupée. Et ensuite, on a plein de micros. Donc, dans les micros, aujourd'hui, j'ai changé les gros micros contre des petits micros. Hein. J'avais des gros micros comme ceux-là. Voilà. On a changé de dimension, tout simplement parce que ces micros-là, comme j'ai eu l'opportunité de travailler avec des horlogers, un gros comme ça, ça ne rentre pas dans une horloge. Hein. J'ai bien essayé, mais ça... Donc j'ai pris ma baguette magique et on a trouvé des petits micros comme ça, qui sont légers et qu'on peut glisser partout. Donc on travaille avec du petit matériel parce qu'on le glisse aussi entre les mains des artisans pour être le plus proche possible de l'outil et du geste. Et puis on a tout un panel de micros surfaciques. Donc ça c'est un micro surfacique. On le met sur la matière et puis on va capter ce qui se passe à l'intérieur. Tout simplement parce que l'artisan, quand il travaille, il a une partie de l'information qui lui passe par la main. Donc aujourd'hui, on le récupère à la fois dans la matière et dans les manches des outils des artisans. Et puis bon, alors on a les micros d'ambiance ou ambisonique. On ne les utilise pratiquement plus. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de pollution sonore. Et si au tout début, on avait encore des plages de 45 secondes, voire une minute, où il n'y avait pas un moteur qui tourne, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, on a fait une croix sur ces micros-là. Et puis, ça tombe bien, parce qu'il coûte cher, donc c'est moins intéressant. Donc, je vais vous faire écouter... des opérations autour du fer pour que vous puissiez comprendre un peu le travail autour de la matière sonore et comprendre aussi tout ce que ça véhicule derrière. C'est-à-dire que si je vous fais écouter ça, on a une opération de cinglage juste après. Donc vous avez juste au-dessus, c'est un bas fourneau. une fois par an à Guédelon, où c'est mon terrain de jeu. Donc Guédelon, c'est dans l'Yonne, hein, c'est un château qui sort ex nihilo, suivant les techniques d'outils médiévales. Ils sortent une fois par an ce qu'ils appellent une loupe. C'est un acier, mais un acier grossier par rapport aux aciers d'aujourd'hui. Et ils font leurs outils à partir de cette loupe. Là, on est sur la première partie. Et on va faire la deuxième partie. Plus le métal s'affine, plus il teinte. D'accord ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je vais sur Guédelon, systématiquement, je demande à l'artisan qui va travailler de prendre un outil qui a été fait sur le chantier de Guédelon, parce qu'il va faire tchac-tchac, il ne va pas faire tin-tin. Ça fait rire tout le monde, mais en tout cas, du point de vue sonore, même l'outil il a un chant différent si le métal il est pur ou moins pur. Donc, quand je remonte le temps, j'essaye toujours de trouver des bruits et des sons qui sont en rapport avec la période sur laquelle je travaille. On va passer la pierre, mais par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le chant des lozes. Alors, les lozes, vous connaissez ? Non. Les lozes, c'est des toits en pierre. Et on n'a plus le droit d'ouvrir de carrière de lozes en France. Donc ils sont obligés de démonter les toits en pierre, vérifier si les lozes elles sont bonnes ou pas, et pour ce faire, ils tapent dessus. Donc une mauvaise loze, elle va sonner mat. Alors. Donc c'est un sonogramme, vous voyez qu'il reste à flûte. C'est le deuxième qui a démarré. Donc là, elle sonne. Alors, attendez, on va revenir sur la mauvaise lose. Si j'arrive à trouver ma souris. Ouh, c'est une petite coquine. Hop. Alors, vous avez entendu la bonne au début. Là, c'est la mauvaise. Elle sonne mat. Et vous voyez bien à côté les harmoniques qui sont présentes sur une... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout artisan avec lequel on a travaillé à chaque fois, quand le geste est bon, quand la matière est bonne, il nous dit ça cloche, il y a une cloche, ça teinte. Et ça se vérifie au niveau de l'enregistrement. Et c'est ce qu'on va chercher à récupérer. Je vois que le temps file.
Oui.
Ouais. Alors je ne vais pas vous frustrer, parce que ce ne serait pas gentil. Je vous montre quand je fais les gros bruits comme ça, mais on va passer, parce que les cloches vous les connaissez, par contre, voilà ce qu'on arrive à enregistrer aujourd'hui. Donc le bruit du fusain sur le papier, hein, c'est ce que vous entendez là. C'est pas amplifié, hein. C'est juste ça c'est amplifié, mais nous on l'amplifie pas. Donc on arrive réellement à débusquer les tout petits sons. Hop, qu'est-ce que vous avez là ? Non, c'est bon. Donc, vous préférez quoi ?
Eh bien, un projet.
3 minutes, bretelle.
Ouais, c'est ça.
Alors, bretelle.
Et puis après.
Et après on échangera. Ok. Donc là, ce que vous voyez à l'image, en haut, vous allez avoir la restitution de bretèse. Et en bas, c'est la spatialisation, c'est le travail avec les fichiers audio en regard. Ouais, c'est coupé. Vous voyez tout le travail sur les fichiers son en dessous là. Voilà, c'était bref, mais tout ce travail-là demande un certain temps. Comment on sort de ce machin ? Voilà, ça ce sont les chiffres qu'on me demande à chaque fois. Donc pour 6 minutes, pour 4 minutes, pardon, puisque j'avais fait le travail de recherche pour le Notre-Dame, vous avez à peu près le temps qu'il faut pour concocter. Donc non, je ne suis pas demandée par le cinéma. Non, je ne suis pas demandée par le jeu vidéo. Vous comprenez tout de suite que ça a un certain coût. Et si vous voulez suivre nos activités, je vous invite à aller promener vos oreilles sur Archéoson. Vous en aurez beaucoup plus, parce que là vous sortez, vous êtes frustrés. Moi je suis frustrée aussi. Mais vous en aurez un peu plus à découvrir.
Merci énormément. Merci énormément.